ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comme à la radio, votre émission de jazz hebdomadaire sur RCF. Bonjour Alex.
Bonjour Laurent.
Aujourd'hui, on va parler de piano, puisque récemment, on a consacré deux émissions au grand pianiste de l'histoire du jazz. Mais pour aller un petit peu plus loin, ça vaut le coup peut-être de se pencher sur quelques musiciens en particulier. Alors, tu as choisi peut-être quelqu'un d'emblématique aujourd'hui.
Alors, probablement le plus original, le plus inimitable, le plus fascinant. Nous allons parler aujourd'hui de Thelonious Sphere Monk. Et nous sommes en 1972. 1972, Monk brise toutes les touches d'ivoire de son piano. Et il va s'enfermer à partir de là dans un mutisme pendant 10 ans jusqu'à sa mort en 82. Et en fait, il avait disparu de la scène dès les années 70, son dernier enregistrement date de 71, il ne montera plus sur scène, il vivra chez Nikad Koenigswater, qui était une muse des musiciens à cette époque, puisqu'elle avait accueilli avant lui le grand Charlie Parker, et il n'a plus touché le piano, il parlait très peu. Il est enterré à New York et c'est plutôt après sa mort que sa musique est redécouverte par un public plus large, alors que pendant toute sa vie, il a été considéré par des musiciens comme Miles Davis, John Coltrane ou Charlie Parker comme une figure majeure de l'histoire du jazz en général et pas seulement du piano.
On va écouter Monk justement dans un morceau en piano solo de cette fin de carrière, cette période où il a pratiquement arrêté d'exprimer la musique, avec une composition superbe qui s'appelle Ruby My Dear.
Thank you.
Thelonious Monk, dont nous parlons aujourd'hui avec ce morceau Ruby My Dear. C'est un musicien complètement inclassable finalement, sa musique est extrêmement personnelle et pourtant il est indissociable de l'histoire des plus grands moments du jazz à partir du bebop et dans les années voire les décennies qui ont suivi.
Oui, donc nous avons quitté Monk tout à l'heure après ces 10 années de mutisme, 10 années pendant lesquelles il n'a plus composé parce qu'il avait probablement déjà fait le tour de sa musique. Mais alors, sa musique, quand commence-t-elle ? Il est né en 1920, sa famille s'installe rapidement à New York, dans le quartier de Manhattan, et il commence à jouer du piano dès l'âge de 6 ans. Il prend quelques cours, mais il est plutôt considéré comme autodidacte. À 12 ans, il accompagne sa mère qui chante dans l'église baptiste. Il l'accompagne à l'harmonium. À partir de 15 ans, il est déjà pianiste professionnel à New York. Il y rencontre Kenny Clarke. À 17 ans, il participe à une tournée de Negro Spiritual. Et petit à petit, il commence à jouer dans les clubs de Harlem. Avec un style déjà très personnel, qui n'attire pas tellement le grand public, mais qui attire tous les grands musiciens de l'époque. Viennent l'écouter dans les clubs, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charlie Parker. Il rencontre Cootie Williams, avec qui ou pour qui, on ne sait pas. Il écrira « Roundabout Midnight ». Il faut attendre 1944 pour qu'il enregistre pour la première fois avec aussi un immense nom puisque c'est Coleman Hawkins qui va aider Monk à son début de carrière. Monk qui lui rendra la pareille en l'invitant avec des sessions avec John Coltrane plus tard en 57. Et il enregistre pour la première fois sous son nom en 1947, la même année avec laquelle il se mariera avec son épouse, Nellie Smith, avec qui il aura un fils qu'il baptisera Thelonious Fair Monk, c'est assez pratique, et une fille, Barbara Monk.
Et donc, parmi les géants de l'histoire du jazz avec qui Monk a travaillé, enregistré, collaboré, il y a Miles Davis. On va écouter un célèbre morceau de Monk qui s'appelle Straight No Chaser. deux génies côte à côte, Thelonious Monk et Miles Davis, sur RCF Côte d'Azur aujourd'hui pour votre émission de jazz hebdomadaire, comme à la radio, consacrée à Thelonious Monk. Et donc, tu évoquais il y a quelques minutes le passage de Monk dans les clubs. Alors, les clubs, ça a été le lieu de bouillonnement et de création du jazz, mais aussi le lieu de pas mal de problèmes.
Oui, alors donc, nous sommes en 1940. Monk travaille dans les plus célèbres clubs de New York. Il y rencontrera Bud Powell, avec qui il ira une amitié profonde. Et là, drame dans la vie de Monk, puisqu'en 1951, il est en voiture avec Bud Powell et la police de New York découvre du cannabis dans la voiture où les deux musiciens sont ensemble. Drogue dont on pense qu'elle appartenait à Bud Powell, mais Monk a refusé de témoigner contre son ami et il se voit donc confisquer la carte qui lui permet de jouer dans les clubs de New York. Donc, plus de moyens de vivre, et il passe les années 1950 à composer, à enregistrer, à jouer un peu dans des théâtres, puisqu'on y avait confisqué la carte pour, qui permettait de jouer dans les clubs, mais pas dans les théâtres. C'est la baronne Panonica de Königswarter qui va lui permettre de survivre financièrement.
Et oui, donc les femmes sont très importantes dans la vie de Monk, comme dans celle de beaucoup de musiciens de jazz. Et il avait, comme tu l'évoquais au début de l'émission, consacré un thème à sa première épouse, qui s'appelait Nelly, avec un très très beau thème, très très beau morceau, qui s'appelle « Crépuscule with Nelly ». Crépuscule with Nelly, Thelonious Monk. Il va bien arriver un jour où Monk va récupérer sa carte de musicien pour pouvoir jouer dans les clubs dont il avait été exclu, tu nous l'expliquais tout à l'heure. Et là, il va commencer une grande époque de créativité et d'enregistrement.
Oui, alors il recouvre le droit de jouer à New York en 1957. Et là, il est pris dans le club Five Spot de New York avec deux quartettes. John Coltrane et Johnny Griffin, tout simplement.
Des petits débutants.
Voilà. Il est reconnu par le milieu du jazz, mais il ne vend pas encore beaucoup d'albums. Alors, il signe aussi chez Riverside, chez Columbia, mais on lui demande d'interpréter des standards. Alors, il enregistrera un disque assez génial aussi, qui s'appelle Thelonious Monk Plays Duke Ellington, mais il va rapidement jouer sa musique, et il a joué aussi la plupart du temps avec son quartet avec le saxo ténor Charlie Rose. Alors là, ça, on est plus avec John Coltrane, on est avec un sax ténor qui est un excellent professionnel, mais qui met en valeur la musique de Monk.
Alors en fait, il retrouve une liberté personnelle qu'il a un peu bridée avec les grands génies avec lesquels il a travaillé. Quoi.
Oui, il fallait qu'il joue sa musique et il fallait que ses musiciens aident à sa musique. Et puis, les majeures compagnies voulaient des quartettes. On n'enregistrait pas trop de piano solo. Il fallait aussi vendre du vinyle. Alors, on a aussi des morceaux extraordinaires, bien qu'il n'ait jamais atteint les sommets des quartettes avec Coltrane et Griffin.
On va écouter un des thèmes fétiches de Monk qui s'appelle Épistrophie. Épistrophie. Thelonious Monk dont nous parlons aujourd'hui avec Alex. On parlait du confort qu'avait Thelonious Monk à jouer avec son quartet et les musiciens qui finalement étaient complètement au service de sa musique. Mais avec cette musique si personnelle, Monk a toujours été et est toujours de nos jours une référence pour l'ensemble des musiciens de jazz.
Oui, référence atypique, référence inclassable, musicien anormal, entre guillemets. Pendant un concert, il lui est arrivé de s'arrêter. Pendant que le groupe continuait à jouer, il se levait, il se mettait à tourner sur lui-même. Si on lit aussi des textes d'Art Blakey, il a écrit que Monk était très bon aux échecs et aux dames, ce qui fait dire à certains biographes qu'il était probablement un peu autiste, c'est-à-dire un génie, mais un génie à part. Et moi, j'aimerais terminer peut-être par un petit texte qu'a écrit Miles Davis. Miles Davis a écrit « Charlie Parker me présenta à Thelonious Monk. Son utilisation de l'espace dans les solos, sa manipulation d'étranges progressions d'accords m'étourdissait, me tuait. Je me disais toujours « Mais qu'est-ce qu'il fout ce con ?» L'utilisation de l'espace chez Monk a grandement influencé ma façon de jouer les solos. C'est lui qui a trouvé des rythmes nouveaux qu'utilisent aujourd'hui tous les jeunes musiciens. Ma nouvelle musique, c'est plein de choses. C'est avec Monk, c'était un grand musicien, un novateur, aussi bien en composition qu'en écriture.
Et oui, et Monk qui était à l'aise avec son quartet, où il était dans ses pantoufles, n'a jamais été quand même aussi génial qu'avec d'autres immenses musiciens de jazz. Et on écoute en ce moment, et pour terminer cette émission, Trinkle Tinkle avec John Coltrane, un enregistrement époustouflant. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, merci Alex pour ces données sur Monk. Et puis rendez-vous la semaine prochaine à nos auditeurs pour une nouvelle émission.
Merci Laurent, merci amis auditeurs, à très bientôt.